Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tournons ensemble dans nos Bibles au psaume 12, à la page 547, le psaume 12. Avant d'en écouter la lecture, nous prions le Seigneur ensemble. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, d'envoyer ta lumière au plus profond de nos êtres intérieurs alors que nous écouterons la lecture de ta parole. C'est toi qui as poussé des hommes par ton esprit à mettre par écrit ta volonté, ta vérité. C'est toi donc qui peux nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir le cœur, nous convaincre, nous persuader de ta vérité. C'est pourquoi nous prions, nous crions vers toi, nous espérons en toi, nous te prions d'accomplir ton œuvre en chaque personne ici présente, pour que nous puissions tous ce matin te rencontrer, t'aimer plus, être sanctifiés par ta vérité. Fais-nous du bien, ô Éternel notre Dieu, comme toi seul tu peux le faire, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 12, à la page 547. Au chef de chœur, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux. Les fidèles disparaissent parmi les humains. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous. Qui serait notre Seigneur? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et sept fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les humains. Amen. Oui, j'ai reçu moi aussi la fameuse lettre de Desjardins, envoyée à près de 3 millions de Québécois dans les dernières semaines. Cette lettre dit ceci. Une enquête des autorités policières a démontré que les renseignements personnels de membres ont été communiqués de manière non autorisée à des personnes situées à l'extérieur de l'organisation. Cette situation est le fruit d'un employé malveillant. Les vérifications nous indiquent que certains de vos renseignements personnels sont concernés par la situation. C'est à cause d'un employé malveillant. Ecclésiaste 9, 18 dit « Un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. » Un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Un employé malveillant a causé beaucoup de troubles pour beaucoup de personnes. Les cybercrimes sont en hausse, nous dit-on. J'ai entendu un spécialiste de cette question dire « c'est le mal du siècle ». La peur de se faire voler leur identité en plonge plusieurs dans l'angoisse et est en train de créer des problèmes de santé mentale. Le mal du siècle. Vous savez comme moi que ce n'est pas uniquement dans ce domaine qu'il y a des gens malveillants, malhonnêtes, fraudeurs, de toutes sortes. C'est partout. C'est généralisé. C'est dans tous les domaines. Et lorsque nous sommes victimes de ces personnes, eh bien, ça peut être très frustrant. Le psaume 12 est une espèce de cri du cœur de quelqu'un qui s'afflige grandement de vivre au milieu d'un peuple où plus personne ne peut se fier à personne. Les fidèles, les gens loyaux, les gens honnêtes sont en voie de disparition. Ils disparaissent, dit David. Plusieurs de nos jours s'énervent et se scandalisent lorsqu'ils apprennent que le bourdon à taches rousses ou la coccinelle à 9 points est en voie de disparition. Ils disent que les conséquences seront désastreuses pour l'humanité, pour la biodiversité. Ils parlent d'un scénario catastrophe devant la disparition d'un tel insecte. Peut-être ils ont raison, mais qui se soucie du fait que les gens loyaux, honnêtes, intègres sont en voie de disparition? Qui pense aux conséquences épouvantables de vivre dans un tel monde? Qui a à cœur de chercher, de trouver des moyens, des mesures pour arrêter ça? Pas grand monde, semble-t-il. David, l'auteur du psaume 12, n'a évidemment pas écrit ce psaume hier matin. Ça fait longtemps qu'il a écrit ce psaume. Et pourtant, ce qu'il dit dans ce psaume est tellement d'actualité. Qu'est-ce que fait David avec sa frustration de vivre dans un monde où on ne peut plus se fier à personne? Nous allons regarder ce matin qu'est-ce qu'il fait devant cette réalité. Et je place devant vous 4 choses que David fait dans ce psaume, devant ce combat, devant cette misère de ne plus pouvoir se fier aux gens autour de lui. Premièrement, David demande le secours de l'Éternel, son Dieu. Verset 2, « Sauve Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux, les fidèles disparaissent parmi les humains. » C'est un cri du cœur, c'est une prière ardente. Sauve, Seigneur, sauve-moi, sauve-nous, délivre-nous, protège-nous, fais quelque chose parce que comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir si on vit au milieu d'une société de gens qui sont si malhonnêtes, infidèles, déloyaux? Qu'est-ce qu'on va faire? Viens à notre secours, Seigneur. Je suis persuadé que chacun d'entre nous c'est déjà fait passer un sapin, comme on dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un nous a trompé, quelqu'un nous a dupé, quelqu'un nous a menti. Hein, et on a vu à quel point ça peut être frustrant. C'est donc tout à fait approprié de prier, « Seigneur, sauve-nous, viens à notre secours, protège-nous. » Lorsque l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit « En toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes, ce « en toute chose » inclus, Seigneur, protège-nous, délivre-nous, secours-nous de tous ces gens autour de nous qui veulent nous tromper, qui veulent nous détruire. Sauve, Éternel, car c'en est fini des hommes loyaux, les fidèles disparaissent parmi les humains. Au verset 3 se trouvent quelques expressions qui évoquent l'infidélité et la fourberie. Chacun dit des calomnies à son prochain. On se parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Voici les armes du diable, l'ennemi par excellence. Le menteur en chef, celui que notre Sauveur a appelé le menteur et le père du mensonge. Il utilise les mots, les paroles, le langage pour faire son œuvre de destruction. Les calomnies, au pluriel, ça veut dire les fausses accusations. La flatterie, le flatteur est celui qui vous mord, il vous mord en souriant. Les cœurs doubles, nous, on dit des fois, telle personne a un visage à 2 faces. Mais David, dans les psaumes, dirait plutôt, cette personne a 2 cœurs. Elle a 2 cœurs, un cœur double. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Le diable, lui, il se sert de personnes qui sont flatteuse, calomniatrice, cœur double, hypocrite pour faire son œuvre. Écoutez bien quelques mots du prophète Jérémie, inspiré de Dieu, à une autre époque que David. Parcourez les rues, regardez, Informez-vous. Cherchez partout, sur les places, s'il y a un homme fidèle quelque part. Ce sont tous des calomniateurs. C'est une bande de traîtres. Ils ont la langue tendue comme un arc pour la fausseté. Tout ami répand des calomnies. Ils s'abusent les uns les autres et ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à dire des choses fausses. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, mais au fond, ils lui dressent des pièges. Depuis l'entrée du péché dans le monde à toutes les époques, qui est un portrait qui se retrouve continuellement, le psaume 12 jette un regard réaliste sur la perversion généralisée de la parole. Quand s'installe ce langage trompeur, pernicieux, infidèle, malhonnête, il n'y a plus de confiance ni d'amitié possible. La société est ébranlée dans ses bases mêmes. La vie humaine est radicalement menacée. Alors, David, qu'est-ce qu'il fait avec cette frustration de vivre au milieu d'une société où on ne peut plus se fier à personne? Premièrement, donc, il demande à Dieu son secours. Sauve, Éternel. Deuxièmement, David demande à Dieu de neutraliser et de vaincre les mauvaises langues. Regardez bien les versets 4 et 5. Que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nos lèvres sont avec nous, qui serait notre Seigneur? » C'est une prière un peu sévère. On pourrait dire « Mais David, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu fais une telle demande imprécatoire contre ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te frustre tant? » Et David pourrait répondre « Eh bien, ces gens-là sont en train de faire la guerre à Dieu. Ces gens-là ont comme confession de foi qui serait notre Seigneur. Ces gens-là, avec arrogance et orgueil extrême, dénient au Seigneur le fait que c'est lui seul qui est le Seigneur et il s'oppose à Dieu et à son peuple. Et c'est quelque chose de très sérieux. Le remède à cette situation pour David, c'est de demander au Seigneur que le Seigneur vienne et fasse quelque chose, qu'il neutralise, qu'il triomphe de ces gens-là qui utilisent la parole comme instrument d'oppression et de domination. Et c'est pourquoi il dit que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Au psaume 59, il prie « Leur bouche pêche, ils ne profèrent que tromperie. Extermine-les, Seigneur, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils reconnaissent que Dieu domine. » Quand on parcourt la Bible, on voit que ce genre de prière est exaucé par Dieu, parfois assez rapidement, et parfois ça prend du temps, et parfois ce sera seulement lors du jugement dernier. Voici un exemple où Dieu a répondu à ce genre de prière. En Acte 12, Hérode persécute l'Église. Il a mis Pierre en prison. Peut-être demain, Pierre va avoir la tête coupée. La Bible dit en Acte 12, « La prière de l'Église montait vers Dieu sans relâche. » Et puis le lendemain, Hérode fait un grand discours devant une foule tellement impressionnant qu'il y a des gens qui disent « Mais c'est la parole d'un Dieu et non pas d'un homme. » Et ils adorent en quelque sorte Hérode. Le livre des Actes nous dit « À l'instant, un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par les vers, Hérode mourut. » Donc Dieu l'a exterminé, l'a retranché, comme David le prie ici. Regardez dans notre psaume 12, le verset 6. « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » L'Éternel se lève, c'est une expression courante dans la Bible pour montrer que Dieu intervient, contre ses ennemis, il dit « J'apporte le salut ». C'est la réponse précise à la prière qui avait été faite au début du psaume. Au verset 2, qu'est-ce que c'était cette prière? C'était « Sauve, Éternel! » Et Dieu répond ici, « J'apporte le salut. » J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. En 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit que le Seigneur Jésus détruira ses ennemis par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche. En Ézéchiel 21, 36, Dieu avait dit au roi de Babylone, « Je soufflerai contre toi avec le feu de mon courroux. Je soufflerai contre toi. » Les arrogants peuvent bien souffler contre les enfants de Dieu, mais finalement, ultimement, c'est le souffle de Dieu qui va remporter la victoire contre les ennemis de son peuple. Pour des raisons que lui seul connaît et qui sont pleines de sagesse, Dieu n'intervient pas toujours, tout de suite, immédiatement contre tous les insolents. C'est Dieu qui décide quand il faut intervenir. Mais tôt ou tard, tous ceux qui s'opposent à l'Éternel et à son peuple et à son royaume et qui persévèrent dans cette opposition et qui ne se repentent jamais, eh bien, ils devront rencontrer le jugement de Dieu. Le dernier livre de la Bible affirme solennellement qu'il n'entrera au paradis personne qui se livre au mensonge. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre. Voilà ce que dit la parole de notre Dieu. Que fait David avec sa frustration de vivre au milieu d'un peuple où on ne peut plus se fier à personne? Premièrement, il demande le secours de Dieu, sauve Éternel. Deuxièmement, il demande à Dieu de neutraliser et de vaincre les mauvaises langues. Troisièmement, David se rappelle qu'il y a seulement ce que Dieu dit qui est fiable à 100%. Regardez le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset de la terre et sept fois épuré. À l'opposé des paroles des hommes qui ont souvent le cœur double, les paroles de l'Éternel sont comme de l'argent, exempt de toute impureté. L'expression « sept fois épurée » transmet l'idée d'une perfection absolue, donc d'une fiabilité totale. Dieu a une parole fiable, une parole vraie, une parole libératrice. Cette certitude fait en sorte que nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Nous la chérissons plus que tout. Le psaume 12 atteste de la crédibilité de la parole de Dieu dans un monde où il n'y a presque plus aucune autre parole crédible. Dans ce monde retentit la promesse de Dieu qui est source de confiance, une promesse qui n'est souillée par aucune fausseté. Vous voyez comment est-ce qu'il y a un sentiment d'immédiat, d'actualité quand on lit ce psaume 12. Ce psaume traduit notre déception de vivre dans un monde où toute communication est falsifiée, pipée. Vers l'année 400, lorsque Chrysostome prêchait sur ce psaume 12, il a dit « Tout est du toc autour de nous. Tout est faux. Tout est trompeur. » Dans son Épître aux Romains, au chapitre 3, au verset 4, Paul dit « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme comme menteur. » Mais on pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a une époque plus que la nôtre qui est très habile avec le mensonge, la propagande, les astuces publicitaires, la désinformation et tous les moyens aujourd'hui dont on dispose pour tromper, pour répandre de fausses nouvelles? Quelle époque nous vivons? Quelle époque difficile et trompeuse? La communication est un champ de bataille où tous les moyens semblent bons pour assurer la domination. Au discours manipulateur des hommes, David oppose le discours vrai et libérateur de Dieu. Dieu prend parti pour ceux qui sont humiliés et grugés. Il intervient avec la force de l'Évangile, une force qui apparaît aux hommes paradoxale, parce qu'elle nous parle de Jésus-Christ crucifié, mais vainqueur, grand triomphateur. Dieu ne manipule pas, ne trompe pas, n'a pas d'arrière-pensée, mais il nous communique sa parole vraie et digne de confiance. Et à cause de ça, dans la communauté de ses bien-aimés, on peut écouter avec confiance et recevoir avec confiance sa parole de vérité. Que fait David avec sa frustration de vivre au milieu d'un peuple, d'une société où on ne peut plus se fier à personne? Premièrement, il demande le secours de Dieu, sauve éternel. Deuxièmement, il demande à Dieu de triompher, de vaincre, de neutraliser les mauvaises langues. Troisièmement, nous venons de le voir, il se rappelle qu'il y a seulement la parole de Dieu qui est fiable à 100%. Et finalement, quatrièmement, il renouvelle sa confiance en Dieu. Ceci est très important. Verset 8. « Toi, Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. » En son nom et au nom de la communauté priante, David s'approprie la déclaration de Dieu au verset 6, déclaration dans laquelle Dieu disait « Je me lève, j'apporte le salut » et appuyé sur cette promesse, le psalmiste renouvelle sa confiance en Dieu. « Tu les garderas », ça veut dire tes paroles que tu viens de nous dire, tes promesses que tu viens de nous faire, tu vas les garder, tu es un Dieu qui est fidèle à ta parole. Heureusement pour nous, ton peuple, tu nous préserveras de cette race à jamais, tu vas œuvrer, tu vas faire, Seigneur, ce qu'il convient de faire pour que ces gens autour de nous ne vont pas mettre en péril notre vie éternelle. Tu vas nous protéger. Garder et préserver sont deux mots clés dans le vocabulaire de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est dans cette confiance en Dieu renouvelée que nous pourrons vivre en étant dépris de ce monde déchu et corrompu où, comme dit le verset 9, les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les humains. Le règne de la bassesse. Si vous préférez, de la corruption, du vice. De tout ceci, j'aimerais dégager pour chacun de nous trois implications pratiques, concrètes, pour nos vies quotidiennes maintenant. Premièrement, si le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, n'était pas venu à nous pour nous sortir de la mort, nous serions encore nous-mêmes prisonniers et esclaves du mensonge. Donc, chaque jour, louons, célébrons, remercions le Seigneur de nous avoir sortis de la prison du mensonge. S'il n'était pas venu à nous, pour nous transformer, nous serions encore dominés et prisonniers et esclaves de la calomnie, des paroles flatteuses, de l'hypocrisie et de tout le reste. Mais dans son amour, il est venu à nous et nous a sortis de cette prison. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes croyants, si vous n'êtes pas chrétien, empressez-vous de supplier Dieu de vous faire devenir chrétien avant qu'il soit trop tard. Mais si vous êtes chrétien, le Seigneur Jésus vous a délivré de cet esclavage, de cet emprisonnement dans le mensonge. Il vous en a sorti alors. Célébrez le Seigneur. Chaque jour, remerciez-le. Deuxièmement, par la puissance du Saint-Esprit, luttons très fort pour éliminer de nos vies tout reste, tout résidu de péché, de mensonge. Voici la volonté de Dieu pour nous, Éphésiens 4, 25. Rejetez le mensonge et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Est-ce que nous vivons de cette manière? C'est la volonté de Dieu pour nous. Rejetons le mensonge, disons la vérité les uns aux autres. Voici ce que nous pouvons lire dans notre confession de foi. Le 9e commandement nous ordonne de ne pas porter de faux témoignages contre quiconque. de ne pas tordre les paroles de quiconque, de n'être ni médisant, ni calomniateur, d'éviter tout mensonge et toute tromperie comme étant d'autant d'œuvres du diable lui-même, afin d'éviter la terrible colère de Dieu. Nous devons, par la puissance du Saint-Esprit, certainement pas par nos propres forces, nous n'y arriverons jamais, mais avec l'aide et le secours de l'Esprit-Saint, nous devons, chaque jour, mettre à mort, combattre, lutter, pour éliminer tout reste, tout résidu de péché, de mensonge, de nos vies. Rejeter le mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain. Troisièmement, finalement, si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous a fait du tort par ses paroles, paroles malveillantes, ragots, médisances, calomnies, toutes ces choses qui peuvent faire tant de dégâts, remettez tout au Seigneur, comme David le fait ici dans le psaume 12, et patientez, le Seigneur a promis de faire justice à ses élus, tôt ou tard. Dieu est un parfait détecteur de mensonges. Il sait très bien ce que vous vivez. Alors, remettez tout au Seigneur. Renouvelez votre confiance en lui. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, sachez que tout est entre les mains de Dieu. Le Seigneur est au contrôle de tout. Un jour, dans une petite église, un pasteur nouveau dans l'église, le nouveau pasteur a demandé à un ancien de prier. L'ancien a commencé en disant, « Seigneur, je n'aime pas le babeur. » Le pasteur a ouvert l'œil. « Qu'est-ce que c'est ça? » L'ancien a continué, « Seigneur, je n'aime pas le lard. » Le pasteur a commencé à s'inquiéter. L'ancien a poursuivi, « Seigneur, je n'aime pas manger de la farine. » Mais après que ces choses soient toutes bien mélangées et mises au four, j'aime énormément les biscuits que ça donne. Alors Seigneur, aide-nous. Quand la vie est difficile, quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, quand ça prend du temps, quand on ne comprend pas, aide-nous, Seigneur, à attendre pour voir ce que tu es en train de mettre au four pour notre bien. Après que tu auras tout bien brassé et préparé, ça va sans doute être beaucoup mieux que des biscuits. Autrement dit, lorsque nous trouvons le temps long, nous attendons après une délivrance, lorsque les choses ne se réalisent pas tout de suite, faisons confiance à Dieu. Pas de panique, parce que nous savons que Dieu s'est engagé positivement pour son peuple, dont nous faisons partie. Dieu s'est engagé à notre égard. Appelons donc sans relâche au secours, demandons au Seigneur de neutraliser et de vaincre les mauvaises langues. Rappelons-nous qu'il y a seulement sa parole qui est digne de confiance à 100% et renouvelons notre confiance en lui. Proverbe 20, 6 demande « Un homme fidèle, qui le trouvera? » Nous l'avons trouvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fidèle par excellence. Nous l'avons trouvé parce que c'est lui qui nous a trouvés. Nous le connaissons. Nous pouvons lui remettre notre sort. Nous pouvons lui faire confiance. Il est le fidèle par excellence. Il est notre sauveur. Et lorsque le malin, le diable, le malveillant par excellence s'approche pour venir nous dérober, nous voler notre identité, eh bien nous savons, comme dit Paul en Colossiens 3, que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Il n'y a pas de meilleure cachette, il n'y a pas d'abri meilleur, plus sécuritaire que ça. L'apôtre Paul dit, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, poursuivons notre route dans la paix. Amen.